France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Saint-Denis, 93. Ville du saint qui en marqua les limites par son martyr, elle appartient à la légende dorée de Paris. Cependant, au XXe siècle, elle est le lieu d'implantation de nombreuses communautés dites immigrées et voit naître de véritables quartiers dévolus. Il y a eu à Saint-Denis une mini-république espagnole sous le franquisme, une petite Espagne. Ici, la légende dorée rejoint la légende rouge des combattants politiques. Travaux publics et Jean Lebrun nous emmènent dans le tracé perdu de la petite Espagne d'hier, en compagnie de Denis Fernandez Ricatala, écrivain et enfant de ce territoire. Auteur des chroniques du Stade de France, il avait, à l'occasion de la construction du grand stade, rencontré les ouvriers africains du chantier et remis les pas dans ses propres souvenirs, car le Stade de France a été construit à l'emplacement où il a vécu. Parabole sur l'immigration. Son grand-père espagnol disait des Français « Voici 40 ans que je vis ici et ils ne s'adaptent toujours pas ». Une parole qui s'est tue, des empreintes ineffaçables.
Mais je ne sais pas quel temps il fait actuellement à Saint-Denis, où vous devez nous entendre, Jean Lebrun.
Eh bien, je peux vous confirmer qu'il fait extrêmement beau Saint-Denis, au chevet de la cathédrale. Nous sommes dans le brouhaha d'El Sour. Nous allons entendre, ce sera notre générique de travaux publics, ce lundi en direct du Café Culturel, l'ambiance qui, le week-end, règne, même brouhaha, au Hogar de la Plaine. On est à l'antenne. Alors, le Hogar, il faut que j'explique le motif qui nous amène à en entendre les échos ici. Alors, on parle beaucoup de l'Espagne. On va encore en parler à la fin de la semaine avec le mariage princier de Felipe et de Laetitia Ortiz. Mais il y a à Saint-Denis, qui est une ville qui offre toutes les possibilités, une Espagne, la petite Espagne, que présente, encore un autre événement qui concerne la péninsule, que présente dans un livre récent aux éditions Autrement, l'une de nos invitées au Café Culturel, Natacha Lillo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors le hogar, qu'est-ce que ça veut dire ce mot hogar?
Le mot hogar, ça veut dire foyer, tout simplement.
Ouais. Alors le hogar, je vois ici un de ses habitués qui s'est installé à l'ombre. Alors c'est un petit peu difficile de faire au mois de mai, quand il fait déjà un temps de juillet, une émission au Café Culturel, parce qu'il y a une partie de la foule qui est sur l'esplanade, au transept de la basilique, déjà dehors, et les Espagnols un peu malins, qui sont habitués à se protéger du soleil, comme Manuel, ont déposé leur chapeau de paille. Bonsoir.
Bonsoir.
Sur le comptoir.
Sur le comptoir du Café Culturel.
À l'ombre.
Ah oui, à l'ombre, bien sûr. J'aime le soleil, mais à l'ombre. Hein, c'est ça, le sud. Dans le sud, elle aime le soleil, à l'ombre. Et c'est pour ça qu'on porte des chapeaux aussi. Hein.
Alors, le hogar, vous en êtes un habitué ici le lundi, le hogar le week-end?
Non, le hogar, oui, le week-end, oui, effectivement. Ça ouvre le samedi et le dimanche seulement. Seulement. En été, il devrait ouvrir tous les jours. Hein.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait au hogar quand on est une femme, quand on est un homme?
Au hogar, on rencontre des Espagnols. C'est un lieu de rassemblement, d'abord. Ensuite, on y mange à la façon qu'on mange en Espagne, des tapas, on boit du vin espagnol. Et on passe des moments en dehors de l'Espagne, mais dans une ambiance tout à fait similaire. On crie, on parle très fort, on... voilà.
Ce qui manque ici au Café Culturel, c'est une télévision qui hurle, parce que j'imagine qu'il y en a une dans le bar du Hogard.
Si, il y en a une. Effectivement, il y en a une au fond, oui. Je la vois pas. En général, je reste soit au bar, soit à table. Et comme il y a tellement de bruit à table, on se retrouve à une quinzaine. En général, on fait ça en famille. La télé, on n'entend pas.
On se demande pourquoi il y a tant de polémiques. On va parler de l'Espagne d'aujourd'hui autour de l'audiovisuel dans les cercles gouvernementaux de Madrid. La ministre de la Culture disant il faut servir l'audiovisuel public, et puis le secrétaire d'État au budget disant l'audiovisuel public ça coûte cher et ça pourrait être privatisé. On se demande pourquoi il y a autant de polémiques puisque les Espagnols ne regardent pas la télé en fait. Vous la regardez sans l'écouter.
En général, la télévision en Espagne a servi à hausser le ton. En Espagne, on parle très fort en général quand on est dans des lieux publics, puisqu'il y a beaucoup de monde. C'est les endroits où les gens se rassemblent. Donc automatiquement, il y a 50 conversations en même temps. Et la télé a servi à augmenter le son, mais le son et la voix. Et finalement, tout le monde s'en fout de la télé. Effectivement, c'est pas les gens viennent pas au café pour regarder. C'est pas le cinéma, la télévision dans le café. Hein.
C'est un petit peu comme les habitués du Café Culturel, quand ils nous voient en train de jouer avec des micros, ça ne les empêche pas de boire et de manger. Ici, vous ne retrouvez rien de la nourriture espagnole. Il faut dire que le Café Culturel est tenu en plus par une Portugaise.
Ouais, c'est pas le lieu là. Et puis la cuisine, c'est pas leur spécialité, puisqu'ils n'ont pas tellement de place pour faire de la cuisine. Donc ils se limitent à des petits plats, des petites salades, des petites choses... Je ne mange pas ici, je ne sais pas ce qu'ils mangent.
Eh bien, vous remarquez en revanche qu'ils sont très portés sur la boisson et qu'ils ont installé une exposition sous prétexte d'aider un centre d'alcoolologie qui, en fait, fait l'exaltation des bistrots bretons avec des choses du genre. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Alors, ne buvons pas, mangeons. Alors, achat de produits espagnols. Non loin d'ici, au marché de Saint-Denis.
Il y a des olives aussi, il y a de tout. Il y a des, tout ce que vous voulez. Il y a du pain espagnol. Il y a du piment doux d'Espagne. Vous voulez savoir une autre chose? Attendez, mon mari, il arrive, il va le dire. Qu'est-ce qu'il faut, le monsieur?
Il y a toute la charcuterie espagnole, hein, ça dépasse le chorizo. Il y a plusieurs de mes collègues, vous allez vous en apercevoir, qui ont eu toute une gamme de produits sur la charcuterie. Il y a aussi, et beaucoup plus aux périodes des fêtes, tout ce qui est typique de la consommation des fêtes de fin d'année. Alors tous les... Je n'ai pas l'accent espagnol, hein, excusez-moi. Les torons, les mantecados, etc., etc. Alors ça, on en voit beaucoup plus. Alors là, ça disparaît un petit peu pendant l'année. Mais on a beaucoup de vins espagnols, je crois. Voilà, vous allez vous en rendre compte. Et puis on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, des choses qui se voient moins, mais qui ne concernent pas l'alimentation espagnole. Il y a toutes des textiles et des produits manufacturés qui viennent d'Espagne. Parce que l'Espagne est un grand fournisseur dans les produits textiles. Et là, il faut regarder un petit peu plus près les étiquettes, mais vous apercevez qu'il y a beaucoup de produits d'Espagne.
Alors avant, vous aviez des gâteaux avec le goût d'anis. Là.
Oui.
Alors à chaque fois, on dit à son épouse, à votre épouse, pardon, non, c'est fini. L'espagnol, il est fait plus de terminer. Ils étaient bons, ces gâteaux-là.
Oui.
Et Walou, ça nous rappelait l'Espagne, tout.
Nous, petits commerçants, on passait toujours par des grossistes. Et de plus en plus, avec l'euro, on travaille directement avec les fabricants et les producteurs en Espagne. Et là, je n'ai pas trouvé en Espagne des gens qui font directement ça. Et on a du mal à en retrouver.
Voilà. C'est bien.
Alors, on laisse Manuel au comptoir continuer à s'alimenter en produits liquides. Et les produits solides, je vois à l'ombre toujours, c'est un vrai espagnol estampillé, Monsieur Saïz. Et les produits solides, on les trouve encore dans les épiceries espagnoles de Saint-Denis?
Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense que ça doit se trouver. Hein.
Il n'y a qu'au marché. Au marché, oui.
Il y a quelques boutiques espagnoles à Paris. J'en connais une à côté de Colonel Fabien, de la place du Colonel Fabien. Et rue de la Pompe aussi, il y en a.
Alors, où est le temps, Natacha Lillo, où il y avait des épiceries qui, j'imagine, n'alimentaient pas les hispano-dionysiens ou les dionyso-hispaniques en produits frais, mais en morue, en chorizo?
Donc, il y a eu, bon, à partir de l'arrivée des premiers Espagnols, à partir des années 20 et des années 30, dans le quartier de la Petite Espagne de la Plaine, qui était à cheval sur Aubervilliers et Saint-Denis, vont s'ouvrir petit à petit toute une série d'épiceries, justement, tenues par des Espagnols, qui sont souvent des épiceries buvettes, dont pourrait parler un petit peu Julien Saïs, vu que ses parents en tenaient une.
À cette époque-là, oui, que mes parents sont venus à Aubervilliers en 1930-29, et ils avaient construit une petite maison. Il y avait une épicerie buvette, et ben, on jouait aux cartes, on mangeait beaucoup et on buvait pas mal. Et on avait des produits espagnols, chorizo, du bacalao, c'était un peu portugais, mais c'est aussi espagnol. Et puis il y avait les pois chiches, bien sûr, les légumes secs, les pommes de terre, les olives, le hareng, tout ça.
Et l'huile d'olive aussi.
Et il y avait, pardon ?
De l'huile d'olive aussi.
Et de l'huile d'olive aussi.
Vous cuisinez toujours à l'huile d'olive, madame ?
Oui. Oui, 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 oui.
Enfin, vous avez vu qu'il a fallu quand même du temps pour que les hommes disent précisément ce qu'il en était des questions de nourriture et d'alimentation, parce que les hommes, dans la buvette de la famille Saïs, c'était non loin d'ici, non pas à Saint-Denis, mais à Aubervilliers, jouaient aux cartes, aux dominos. Vous voyez, ça continue d'ailleurs, Natacha Lillo, parce qu'il y a ici, sur le parvis de la cathédrale de Saint-Denis, des joueurs d'échecs, sinon de dominos.
Combien de pays pour la formation? Combien de pays? Parce que moi, il faut que je paye. Sinon, moi, je ne marche pas là.
Allez. Et pendant que les hommes jouent, les femmes, sous le son de la télévision, ben, parlent dans quelle langue, de quelle langue ?
Je ne suis pas d'accord qu'il y a, admettons, comme les Catalans, ils veulent parler le catalan. Pourquoi pas le castellano, espagnol ? Les Basques. Les Basques, c'est la même chose. Et c'est ça que nous... Qu'avant, on parlait que l'espagnol, on n'attendait pas parler ça. Bah, on trouve quand même, autant d'années, ça a évolué beaucoup. Mais bon, ça, on n'est pas tellement d'accord. Il y a beaucoup d'Espagnols qui ne sont pas tellement d'accord. Mais bon.
Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Parce que normalement, je trouve que d'abord, on est espagnol. Et après, on est de la région qu'on est. Là, c'est d'Extrémadure. Moi, c'est de Navarre. Barcelone, c'est autre chose. D'accord, chacun y dit pour sa on est né. Mais en réalité, on est tous des Espagnols. Et on doit parler l'espagnol, même que dans la famille, entre amis, on parle le catalan, on parle le basque, mais que quand on va dans les magasins ou des trucs comme ça, normalement, on doit parler l'espagnol, pas de la région. Et normalement, il y a beaucoup d'endroits. Et on demande des choses en espagnol et on te répond en basque ou bien en catalan. C'est ça que moi ça m'énerve. Ils ne supportent pas.
Moi, c'est pareil.
Qu'est-ce que vous en pensez,
moi,
madame?
Je dis la vérité. Hein. Même les gallegos, que les valencianos, que tout ça, hein, il faut qu'ils parlent espagnol comme nous. On parle espagnol, castellano, voilà.
Ils parlent. Nous ne comprenons pas quand ils parlent dans le patois de eux. Nous comprenons le mot castellano. Parce que c'est moi, c'est le castellano, c'est le mot que je parle. Pas un autre dialecte.
Alors, les Espagnols de Saint-Denis avaient trouvé la solution en pratiquant une langue un peu composite, faite de compressions, qu'on a nommée, c'est Natacha Lillo qui utilise le terme, elle ne doit pas être la seule, le fragnol. Alors, pourrait peut-être nous en parler Denis Fernandez Recatala, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous, vous portez un nom dionysien, un prénom dionysien, parfaitement adapté.
Il est traduit, en fait, parce que je me prénomme Dionysio. Le Denis, donc. Et vous voulez que je vous parle de quoi? De la langue qu'on pratiquait à la plaine?
Eh bien, on ne disait pas la plaine d'abord. La plaine, je le rappelle à nos auditeurs qui ne sont pas de Saint-Denis, c'est cette zone intermédiaire, à la fois pauvre et riche, entre Paris et Saint-Denis. On disait quoi? La plaigna?
On ne disait pas exactement ça de mon temps, non. On disait le barrio. Donc, c'est le quartier.
Et alors, quand il s'agissait d'aller à Pierrefitte, on disait Pierrefitte ou on avait trouvé une adaptation?
Non, ce qui s'est passé, ça dépend des immigrations, en fait. Il y avait des immigrations très attachées au castillan et à enseigner le castillan à leurs enfants d'une manière extrêmement rigide, en quelque sorte, pour la simple raison que l'immigration politique pensait retourner en Espagne. Je me souviens de mon grand-père qui n'a jamais appris le français, par exemple. En prétextant que c'était aux Français de s'adapter à lui et non pas le contraire. Ça faisait 40 ans qu'il était là et qu'il ne s'adaptait toujours pas.
Alors ici, on parle alimentation depuis un moment. Vous avez commandé quoi? Un café au lait au lait?
Exactement. Le langage vernaculaire de la plaine, c'était un langage qui était extrêmement teinté de gallicisme. Et naturellement, qui n'est intelligible que par cette mince frange de population qui est relativement éphémère, en fait. Hein. Et lorsque la blague habituelle quand on nous emmenait au café, c'était de commander du café olé, olé, olé. Hein, c'était un café crème, mais dit sur le ton des exclamations espagnoles.
Alors sur le parvis du café culturel, au pied de la cathédrale de Saint-Denis, c'est plutôt des boissons fraîches, rafraîchissantes ce soir. Denis Fernandez Recatala, il n'y a pas un temps à sortir un parapluie dehors. Comment est-ce qu'on disait parapluie?
Moi je disais paraguas, c'est
non,
vous
comment
disiez?
Non, parapi. Moi il y a des gens qui m'ont dit parapi. Et pareil pour Pierrefitte tout à l'heure, il y avait des gens qui appelaient ça piedra frita, hein, la pierre frite.
Non, fait, je connais ce langage parce qu'il était pratiqué autour de moi, mais en fait je l'utilisais assez peu, sinon sur un mode moqueur même quand j'étais enfant. Je me souviens que l'une des grosses blagues, hein, des grosses trivialités, c'était lorsque la ligne de la Porte de la Chapelle passe par la Chambre des députés. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Et donc, il était de bon ton de dire la Chambra des Putes, hein, ce qui laissait entendre quelque chose d'assez malsonnant, en fait, et malséant.
Alors, n'anticipons pas sur les comportements politiques qui ont été et qui sont ceux des Espagnols de Saint-Denis. Comment on disait Viltaneuse, puisqu'on parlait de Pierrefitte, Natacha?
Ah, Viltaneuse, ça, je ne sais pas.
Alors, Viltaneuse s'y produit dans quelques instants. Ah, voilà, Denis Fernandez, la précision.
Biatanocha.
Donc ce produit dans cette ville dont je ne redirai pas le nom et qui est voisine de Saint-Denis, dans quelques instants, Fantasio, bonsoir à vous, Fantasio. Alors Fantasio, vous avez appris l'espagnol de naissance.
Ouais.
Et le vrai espagnol...
Je ne sais pas si ça marche. Hein. Ah voilà.
Vous avez appris l'espagnol de naissance.
Oui, oui, oui.
Le vrai espagnol.
L'espagnol porteño mélangé à Paris. Je suis né à Paris.
Alors, immigré argentin, vous travaillez dans plusieurs endroits de la Seine-Saint-Denis. Vous n'êtes pas un artiste comme les autres, parce que bien souvent, on demande aux artistes, comme aux gens de radio, vous savez, une sorte de surimposition. On s'installe une heure dans un endroit, puis après, on va ailleurs. Quand on vous a proposé ça à Viltaneuse, vous avez dit non?
Quand on m'a proposé quoi?
De venir comme ça, une fois de temps en temps.
Si, j'ai dit oui.
Oui, mais vous ne voulez pas venir comme ça pour inspecter les travaux finis?
Oui, non, je viens pour essayer de creuser quelque chose et pas juste intervenir.
Comme nous, toutes les semaines ici.
Par exemple. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous nous jouez?
Je vais vous jouer une chanson dont la mélodie, je pense, a été écrite par Garcia Lorca, qui s'appelle « Huito Huito ». Et qui est intéressante parce que les couplets ont toujours été inventés avec une mélodie qui est très simple. Et les couplets ont toujours été réinventés par la tradition populaire en général.
Donc avant son intervention à Viltaneuse, dans peu de temps, Fantasio, le porteño à la contrebasse.
Huito, huito, huito.
siento muy metida en fuego. No me mires a la cara, que me pongo colorada. Con el Vito, 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 me siento muy metida en fuego. No me mires a la cara, que me pongo colorada. Estoy más metida en fuego. Cada día, niña mía, me siento más metida en fuego.
Donc, Fantasio, quelques instants avant l'un de ses nombreux passages à Viltalos, Fantasio qui nous disait que l'espagnol, il l'avait appris dans sa famille. Natacha Lillo, comment peut-on collecter les sources concernant la vie des Espagnols de Saint-Denis ? Parce qu'elles ne sont pas si fréquentes, les sources écrites. Bah, s'il devait bien y avoir des faits divers de temps en temps, alors, un crime passionnel.
Alors les sources, bon, j'ai fait toute une série de recherches. Donc j'ai cherché d'abord, j'ai travaillé sur les recensements de population, qui est une source très riche puisque là on voyait où habitaient les gens, où ils travaillaient et s'ils avaient par exemple déménagé entre un recensement et un autre. Donc j'ai travaillé sur tous les recensements de la ville de Saint-Denis, de la ville d'Aubervilliers depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. J'ai travaillé également beaucoup aux archives municipales de Saint-Denis qui sont très riches et dont l'archiviste Frédéric va pouvoir vous parler tout de suite. Et j'ai travaillé également sur les mains courantes du commissariat de la Plaine qui se trouve aux archives de la préfecture de police de Paris où là justement j'ai pu trouver trace de quelques bagarres, de quelques crimes passionnels. Il y a notamment deux hommes qui ont tué leur femme dans des crises de jalousie en 1934. Et bon, sinon, j'ai aussi pas mal travaillé avec les archives religieuses, puisqu'en fait, l'actuel hogar espagnol de la Plaine, auparavant, c'était une paroisse de langue espagnole où il y avait une chapelle, et ils ont conservé tous les registres de baptême, de mariage, de communion. Donc ça aussi, ça a été une source importante.
Et sinon, alors, rassurez-nous, les Espagnols ne laissent pas beaucoup de traces dans les faits divers, parce qu'ils constituent une immigration assez pacifique, dit-on.
Oui, ce que j'ai trouvé également aux archives de la préfecture de police, des rapports, des renseignements généraux de l'époque, comme quoi, effectivement, c'était une communauté pacifique, tranquille, qui essayait de s'intégrer du mieux possible. Possible, qu'on voyait bien leurs enfants à l'école, etc.
Abel Tissot nous a confié, bonsoir à vous Frédéric Jacquet, on vient de vous présenter comme l'archiviste municipal de Saint-Denis. Abel Tissot vient de nous confier, c'est une source familiale parmi beaucoup d'autres, toute une collection de photos dans une enveloppe jaune.
Oui, ben ce sont des photos, j'en reconnais certaines, puisque certaines de ces photographies sont actuellement exposées dans l'exposition 12 banlieues. Ce sont des photographies de famille, c'est une source extrêmement riche, la photographie de famille, puisqu'elle permet aux gens d'exprimer énormément d'eux-mêmes, comment ils vivent dans leur cadre de vie, leurs habitudes, leurs moments de bonheur principalement. Et la photographie de famille vient souvent en contrepoint des archives administratives, des archives publiques qui présentent le côté dramatique des situations, alors que les archives, que les photographies de famille présentent, elles, les moments plutôt heureux.
Alors, vous parlez de bonheur. Denis Fernandez Recatala, lui, c'est une source de mémoire écrite parce qu'il a publié sur les Espagnols de Saint-Denis, directement ou indirectement, nombre de livres à la dispute, au temps des cerises, que sais-je. Je crois qu'il y a un de vos personnages, un jour, Denis Fernandez, qui dit « Je voudrais ne me souvenir que des moments de bonheur ».
C'est très possible, mais malheureusement, moi, je ne me souviens pas de ça.
Oui, parce que vous, vous êtes trop doué pour le tragique.
Bah, comme tous les Espagnols ont un art de la dramatisation que l'on perçoit à travers le flamenco, par exemple. Ce n'est pas obligatoirement triste, mais c'est tragique et dramatique. Non, en ce qui concerne la plaine, moi, j'ai des souvenirs très heureux, hein, la plaine, des souvenirs d'enfance très heureux.
Donc la plaine, précisons, parce qu'on ne l'a pas dit encore suffisamment, c'est un quartier, un lacis de ruelles, comment dirait-on aujourd'hui dans le langage urbanistique moderne, une autoconstruction.
Voilà, oui, c'est-à-dire que par exemple, nombre des ruelles de la Petite Espagne n'existaient pas, ni sur les plans de Saint-Denis, ni n'étaient répertoriées sur les recensements de 1921, et apparaissent à partir de 26-31, parce que ce sont les immigrants eux-mêmes, les Espagnols, quelques Italiens également, qui ont construit les petites maisons, qui au départ étaient des baraques de briques et de brocs, et petit à petit, ils ont ajouté des parpaings de mâche-fer, des briques, pour que ça devienne de petites maisonnettes.
Et alors, les maisons familiales que vous avez connues, vous, étaient équipées, Denis Fernandez, de l'eau courante, de l'électricité, de water performant?
Non, absolument pas. Et ça, c'est une chose assez curieuse, car le tout à l'égout, la plaine, a été installé en grande partie une bonne partie du tout à l'égout est installée lors de la construction du Stade de France, c'est-à-dire en 1998. Et ça veut dire qu'il y a des générations d'émigrés, hein, d'ouvriers qui ont vécu avec un inconfort, j'allais dire, pessimiste. Hein.
Vous vous souvenez d'un passage de l'un de vos livres qui raconte la mort d'un vidangeur qui disparaît dans la merde, littéralement. Il fait d'ailleurs ce métier de vidangeur.
Exactement, mais... À la plaine, il y avait des métiers très étranges. Et moi, j'ai été bercé pendant... Je vous prie d'excuser, c'est un souvenir un peu scatologique, mais en même temps qui était très impérial, parce qu'il était plein de dignité. J'ai été bercé par une partie de mon enfance, par la vidange des latrines de l'immeuble, qui se passait la nuit, donc, avec un moteur qui pompait. Et en général, tout le monde sortait. Sur le balcon, hein. Sur les balcons, c'était ce qu'on appelle les galeries en Espagne, sur les balcons à ciel ouvert. Et donc bavardaient, voilà, les enfants étaient là également. Et je voulais vous dire...
Vous me direz que cette odeur sui generis était souvent préférable à l'odeur des usines d'Aubervilliers, par exemple. Quand le vent rabattait les mauvaises odeurs sur les quartiers nord de Paris, on disait c'est Aubervilliers qui sent.
Oui, on disait ça, oui, on disait qu'il y avait des odeurs de Moyen-Âge. Mais tout ça était supplanté par une chose très 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 étrange. Tout le monde fumait. Enfin, je parle pas des enfants, hein, je parle des adultes. Tout le monde fumait pour modérer les odeurs. Sur les constructions, il y a une chose qui était qui pour moi, en tant qu'enfant, a été extrêmement marquante. C'est le fait. Ce n'est pas seulement les ruelles. C'est le fait qu'il y avait des constructions entre les voies ferrées. C'est-à-dire que les trains passaient entre les maisons, tout simplement, vers le. Ce qui n'existe plus maintenant, le passage, l'impasse du chef de la ville. C'était les voies ferrées qui conduisaient aux usines chimiques. Mais très curieusement, ce n'est pas ça qui incommodait, c'était pas les usines chimiques elles-mêmes qui incommodaient, ni d'ailleurs Saint-Gobain qui était à côté, mais plutôt une sorte de relatif désarroi, hein, dans lequel on plongeait une population qui était très solidaire à ce moment-là, mais qui vivait des moments relativement difficiles, surtout lorsqu'elle se comparait à des gens encore bien plus méprisés qu'elle, c'était les Algériens de l'époque.
Alors, on parlera de la manière dont, peu à peu, excusez-moi du mot, l'immigration espagnole a été comme fossilisée par les couches suivantes d'immigration. Mais restons quand même sur la description du quartier de la Petite Espagne, à la Plaine Saint-Denis. Mais il y avait aussi d'autres zones d'implantation des Espagnols, à Aubervilliers, par exemple. Et on appelle ça, comment ça s'appelle, l'exposition qui a lieu actuellement, Gérald de Rossi, animateur du journal de Saint-Denis à la salle de la Légion d'honneur ici, on appelle ça?
On appelle ça Douze banlieues.
Douze banlieues, vous trouvez que le titre est approprié?
Je crois que c'est approprié, oui, Douze banlieues, un petit côté chantant comme ça.
Oui, enfin, d'où sa mère, Frédéric Jacquet. Vous avez sélectionné dans l'illustration de l'exposition, donc on le disait à l'instant, les moments les plus heureux. On peut peut-être regarder d'ailleurs les photos de la famille Tissot. Il y a beaucoup de photos de mariage.
Oui, je voudrais dire Douze banlieues, c'est aussi la connotation affective liée aux sources historiques qui ont été utilisées dans cette exposition, à savoir le témoignage, la parole des gens et la photographie de famille. La photographie ne retient que très rarement les moments malheureux. Il y a très rarement de photographies d'enterrement, par exemple, mais très souvent des photographies de mariage, des photographies de famille rassemblée, des photographies où on souhaite, où on célèbre l'enfance, le petit enfant qui est très très présent dans la photographie de famille, qui est une véritable fierté. La photographie de famille, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est une photographie qui ne s'intéresse jamais au cadre, mais parfois on le voit. Mais les gens sont fiers de l'endroit où ils vivent, indépendamment du cadre. Et certaines de ces photos aujourd'hui nous paraissent curieuses car on a l'impression que le cadre est relativement sinistre. C'est l'image de la banlieue telle qu'elle est véhiculée dans les représentations et on se dit comment les gens ont pu se faire photographier à cet endroit-là. Mais en fait, ils sont particulièrement fiers et heureux parce que c'est l'endroit où ils vivent et c'est l'endroit où ils sont heureux.
Alors ici, deux couples, double mariage avec à l'arrière-plan, non pas un jardin plein de roses. Il y en avait peut-être parfois à la petite Espagne ou dans d'autres quartiers comme la Mutuelle qu'habitaient les Espagnols. Non, en arrière-plan, il y a le pont de Soissons, le pont de chemin de fer. Et ce sont les lignes de chemin de fer, nous disait-on à l'instant, qui distribuent un habitat qui n'était pas vraiment légal et qui donc proliférait de façon anarchique. Alors justement, Natacha Lillo, on entendait Frédéric Jacquet dire « on célèbre les enfants ». Les mariages se faisaient entre soi. Les familles étaient très nombreuses, c'est ce que remarquaient les plus vieux Dionysiens qui pouvaient se plaindre du bruit que faisaient les Espagnols qui parlent toujours un ton au-dessus.
C'est-à-dire qu'en fait les Espagnols, donc d'abord beaucoup de gens, d'hommes seuls surtout, sont venus pendant la guerre de 14-18 pour travailler dans les grandes usines métallurgiques et chimiques qui travaillaient pour la guerre. Et après ces hommes sont rentrés en Espagne et très vite ont été confrontés à une crise agricole importante. Là ils reviennent à la plaine, mais cette fois-ci ils reviennent pas seuls, ils reviennent accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants et de toute la fratrie, les frères, les beaux-frères, les cousins.
Donc c'est de l'immigration familiale.
Oui, c'est de l'immigration familiale et villageoise. Très très vite. Et donc souvent, comme ils viennent de régions d'Espagne, comme l'Extrémadour beaucoup, où la transition démographique venait à peine de commencer, eh ben, on arrive avec des familles très nombreuses. Et c'est ça dont certains Dionysiens vont se plaindre en disant « c'est une femme qui ne font qu'enfants ». Hein, moi j'ai trouvé dans les archives plusieurs lettres de Dionysiens de souche, entre guillemets, qui écrivent à la mairie pour se plaindre de ces enfants qui piaillent, qui courent partout, qui sont sales, etc. Bon, voilà. Et
On peut d'ailleurs profiter de l'occasion, puisque vous commencez à retracer l'histoire de l'immigration, pour dire que grosso modo, il y a eu trois vagues. Celle qu'on dirait aujourd'hui de réfugiés économiques, enfin, c'était pas nécessairement le vocabulaire de l'époque, dès avant la guerre de 14. Et puis après, les vagues sont davantage marquées par les événements politiques.
C'est-à-dire qu'avant la guerre de 14, c'est pas vraiment une vague. Avant la guerre de 14, on trouve surtout de très jeunes gens qui sont employés dans la verrerie de Legras, qui était une grande verrerie de Saint-Denis, où ils étaient surexploités, ils travaillaient au feu. Et ces jeunes gens, c'est bon, quelques centaines qui habitent à la fois sur Saint-Denis et sur Aubervilliers. La première grande vague digne de ce nom, c'est donc celle consécutive à la guerre de 14-18, où là, il va y avoir, par exemple, à Saint-Denis, en 1931, il y a environ autour de 4000 Espagnols à Saint-Denis et 12000 Espagnols dans toute la banlieue nord, dans les villes voisines. Donc ça, c'est la première grande vague d'immigration, entre guillemets, économique. Après, il va y avoir la seconde vague qui va être tous les réfugiés politiques républicains qui arrivent, soit des 38, pour certaines régions qui sont tombées des 38, soit à partir de vraiment la retirada de février 39. Et la troisième vague sera à nouveau une vague toujours d'économique, entre guillemets, de gens qui vont arriver à partir de 1955-60 pour travailler dans le cadre des 30 Glorieuses. Mais qui sont souvent, tant la première que la deuxième et la troisième vague, on retrouve des réseaux familiaux, c'est-à-dire des gens qui sont venus à Saint-Denis parce qu'ils savaient qu'ils avaient un oncle, un cousin, un parent éloigné.
Donc le zénith de l'immigration espagnole, c'est 1968, c'est là qu'il y a presque le plus d'Espagnols. Et à l'époque, le quartier de la Plaine, évidemment, ne suffit pas à les abriter tous. Et beaucoup participent de la vie quotidienne, encore plus difficile que celle précédente qu'on a décrite tout à l'heure, du bidonville du Framboisin.
Voilà, donc là, bon, le bidonville du Framboisin est né dans les années 20, aussi avec des Espagnols. Hein. Les premiers Espagnols à s'installer au Framboisin, c'est vers 23-24. Mais c'est vrai que l'explosion du bidonville a lieu, et l'explosion aussi du bidonville du Cornillon, ont lieu dans les années 55-60, avec également la naissance au nord de Saint-Denis, à la frontière avec la Courneuve, d'un immense bidonville qui va s'appeler La Campa, qu'on va comparer à l'époque au bidonville de Nanterre.
À la demande générale maintenant, et en particulier de votre compère Natacha Denis Fernandez Recatala, voici du flamenco. Vous définiriez comment, Denis Fernandez, le flamenco ?
C'est un art de la c'est un art de la dramatisation, tout simplement. Le flamenco, d'abord, il y a une chose remarquable dans le flamenco, c'est que c'est fondé sur un rythme ternaire et qu'il obéit à la complexification. Hein, c'est en ça qu'il ressemble au jazz, par exemple. Hein. Si.
Esa gitana morena ya no pasa por aquí porque me la duchó su mamá. Su mamá no me quiere a mí, quiero esa niña, ella me quiere a mí. Culpa de su gente, no quieren saber de mí. Y en mi corazón muere esa gitana y en su corazón así muero yo. Ay mamá, mamá, me gusta esa niña. Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Yo miro su cara, beso su labio rojo. Cuando ya me miran, tiran mis ojos, tiran mis ojos. Ay mamá, mamá, me gusta esa niña. Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Yo miro su cara, beso su labio rojo. Cuando ya me miran, tiran mis ojos, tiran mis ojos. No contará quien te quiera como a ti te quiero yo. No buscará lo que diga, que será tu perdición. Yo sé que tú me querías y que me sigues queriendo por culpa de tu familia. Todos estamos sufriendo y en mi corazón muere esa gitana y en su corazón así muero yo. Ay mamá, mamá, me gusta esa niña. Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Yo miro su cara, beso su labio rojo. Cuando ya me miran, cierran mis ojos, cierran mis ojos. Ay mamá, mamá, me gusta esa niña. Que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Yo miro su cara, beso su labio rojo. Cuando ya me miran, cierran mis ojos, cierran mis ojos.
Manuel, vous qui venez de jouer avec Franck, vous avez beaucoup de mérite à venir nous rejoindre ce soir au Café Culturel à Saint-Denis. Alain Lefkovitch qui a préparé cette émission, on a peut-être eu moins à vous dénicher parce que vous habitez juste en face du Hogar, le haut lieu de l'ultime Espagne de Saint-Denis, non ?
Exactement, exactement. J'habite juste à côté et donc je suis le prof de guitare là-bas. J'y vais tous les samedis, tous les dimanches. Donc je fais pas mal de cours aux enfants, aux adultes. Et aux gens âgés aussi, quand ils viennent, quand ils veulent venir.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Manuel, l'histoire de votre famille ? Parce que tout à l'heure, on entendait parler de trois vagues d'immigration, avant la guerre de 14, à l'occasion de la guerre civile, et puis ensuite, pendant le franquisme, peut-être aussi contre le franquisme, l'immigration économique.
Mes parents, en fait, mon père est arrivé en 1962, à la Plaine Saint-Denis, donc. Et ma mère est arrivée en 1963, donc c'est des immigrés espagnols.
De la toute dernière période.
Exactement, exactement.
Et alors vous êtes fils d'un Espagnol et d'une Espagnole.
Exactement, je suis d'origine espagnole et j'ai la double nationalité en fait. Mes parents sont arrivés à la Plaine en 62, en 63 comme je dis.
Alors, y a-t-il beaucoup de mariages mixtes, comme on dit en bon français, entre des Espagnols et des non-Espagnols ? Alain Lefkovitch a eu beaucoup de mérite à dénicher ce couple assez particulier qui œuvre au marché de Saint-Denis.
Comment vous êtes arrivée d'Espagne ?
Eh ben, je suis arrivée comme ça, tout à ça. Je suis venue apprendre le français il y a une quarantaine d'années. Et puis j'ai trouvé ici un mari très gentil, que je me suis mariée. J'ai deux enfants et deux petits-enfants. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous vendez de la vaisselle ?
De la vaisselle et puis 30 ans, dans la même place.
Et vous êtes croyante ?
Très croyante. Mais je suis d'origine catholique, mais je suis mariée avec un israélite.
Alors comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe très bien. À la maison, on fait un petit peu la religion israélite, mais on est libre, on n'a rien imposé, c'est mon gré, et on fait comme ça, et tout ça se passe très bien.
Et vous, vous allez à l'église ?
Ça m'arrive, bien sûr. Quand je fais une prière, j'ai toujours mon Dieu à moi, hein. Le même Dieu, le même, mais j'ai toujours mon Dieu à moi, voilà.
Voilà le modèle judéo-hispanique de Saint-Denis. On parlera peut-être du modèle à l'Andalous tout à l'heure, quand on parlera du rapport des Espagnols de Saint-Denis avec les immigrés venus d'Afrique du Nord. Madame, monsieur, vous, vous êtes un couple espagnol classique.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, ben, ma femme est immigrée, elle vient d'Espagne. Moi, je suis fils d'immigré, je suis né à Saint-Denis. Et bon, ben, on passe très bien, hein.
Denis Fernandez, où diable est passé Denis Fernandez ? Parce que l'espace est grand quand on parle de la petite Espagne ici au Café culturel de Saint-Denis. On peut être enfant d'Espagnol, donc des Espagnols de la péninsule, parfois de la même province. On peut être enfant d'Espagnol de convictions différentes, parce qu'il y a aussi un phénomène de mixité, c'est comment faisait-on pour être républicain, on a parlé de l'immigration politique républicaine, voire communiste et catholique. On parlait du patronage de Saint-Denis. Vous, vous devez être devenu communiste, Denis Fernandez.
Moi, je ne suis pas devenu communiste, je suis né communiste.
Mais est-ce que vous n'êtes pas allé aussi à l'école catholique ?
Si, mais ça, d'ailleurs, le hogar espagnol s'appelait El Real Patronato Español. Entonces, hein. Alors, ça veut dire le Royal Patronage Espagnol.
Alors, comment faisiez-vous ? Ça se passait dans quelle école ?
Très simplement, dans l'espace du hogar, il y avait une école. Il y avait une école qui recevait diverses classes en même temps, hein, et où l'on enseignait l'espagnol. Alors, avec cette petite chose un peu malencontreuse pour les rouges, hein, c'est comme los rojos, hein, c'est comme ça que l'on désignait, nos parents. Il y avait au mur de la classe deux choses qui étaient extrêmement révoltantes, y compris pour l'enfant que j'étais. Hein. Il y avait un profil du caudillo en bronze. Donc il y avait Franco qui, en quelque sorte, nous surveillait, et une croix. Les rouges ne fréquentaient pas, étaient anticléricaux, hein, faut dire les choses très nettement. Ils ne fréquentaient pas le catéchisme. La chapelle était à côté. Et d'ailleurs, il y a une chose assez amusante, c'est que le hogar actuel était la salle des fêtes de l'époque. Et je me souviens de la période où on a peint la fresque qui est encore, qui retrace une histoire plus ou moins fantasmée de l'Espagne, puisque ça part de la découverte des Amériques par Colomb à pour aboutir à Cervantes et au Don Quichotte. Voilà. Il n'y avait pas de conflit majeur entre les différents groupes, mais il y avait une particularité pour les communistes, c'est qu'ils étaient liés au Parti communiste français. Ce qui n'était pas exactement le cas des autres groupes politiques, comme les anarchistes, par exemple.
Oui, parce que, Natacha Lillo, la polarisation idéologique était forte. D'un côté, les partisans de la République, de l'autre, les pères clarétins qui tenaient le patronage dont parlait Denis Fernandez. Mais chez les Républicains, il pouvait y avoir de sérieuses divisions. On sait quelle lutte intestine il y a eu entre communistes et anarchistes chez les Espagnols pendant la guerre civile. Les anarchistes ne s'appuyaient pas sur une structure française.
Bon, avant la guerre civile, c'était exactement comme en Espagne. C'est-à-dire que dans le quartier espagnol, la présence anarchiste, tant de la CNT qu'ensuite de la FAI, était beaucoup plus importante que la présence communiste, puisque le Parti communiste espagnol, à l'époque, en Espagne même, n'était pas très important. Au moment de la guerre d'Espagne, il va y avoir des gens qui vont partir tout de suite du quartier se battre en Espagne, dans les milices, des pro-anarchistes en majorité, et aussi des gens qui étaient devenus communistes, souvent devenus communistes, au contact des communistes français, hein, puisque Saint-Denis était quand même un bastion communiste, et, ou Aubervilliers, enfin, où les communistes étaient très nombreux. Et pendant la guerre civile, c'est vrai que là, beaucoup de gens vont se tourner vers le PCF parce que le PCF mène une campagne très forte en faveur de l'Espagne républicaine, envoie des colis, envoie des camions entiers de nourriture, de vêtements, etc. Et donc, il va y avoir un espèce d'appel d'air vers le Parti communiste qui fait que beaucoup de jeunes gens de la communauté espagnole qui étaient trop jeunes pour partir se battre vont rentrer pour les garçons aux jeunesses communistes ou aux jeunes filles de France pour les jeunes filles. Et après la guerre...
Attendez, je vous arrête un instant sur l'avant-guerre parce que vous faites comme si Saint-Denis était resté uniment communiste pendant les années 30. Or, chacun sait que le maire de Saint-Denis s'appelait Jacques Doriot et que Jacques Doriot a fait sécession du Parti communiste. Alors, Jacques Doriot était populaire chez les Espagnols, vous le racontez, parce que quand le maire d'Aubervilliers, Pierre Laval, ne donnait pas de subventions aux chômeurs espagnols pendant la crise des années 30, Jacques Doriot arrosait les Espagnols de Saint-Denis, les sections communistes de la plaine, où étaient nombreux les Espagnols, ont été doriotistes.
Les sections, donc, oui, effectivement, ont été doriotistes, parce que 50% de la population adulte espagnole était au chômage. 50% des hommes étaient au chômage en 36. Comme le comité de chômeurs impulsé par Doriot était très fort, il y avait énormément d'aide aux chômeurs, y compris aux chômeurs étrangers, puisqu'il n'y avait aucune discrimination de sa part. Du coup, c'est vrai qu'ils étaient doriotistes. Mais après le déclenchement de la guerre d'Espagne, très vite, on va se rendre compte que Doriot prend le parti petit à petit des franquistes.
Parce qu'il va même voir Franco.
Voilà, durant l'été 38, il ne va pas simplement voir Franco, il effectue une tournée d'un mois sur le front nationaliste. Et à ce moment-là, beaucoup de gens se rendent compte que Doriot est de l'autre côté et vont abandonner les positions doriotistes et suivent justement le Parti communiste français qui mène une campagne très très forte contre Doriot dans la ville.
Parce que même s'il n'y a qu'une centaine de familles vraiment impliquées, envoyant par exemple quelques-uns de leurs membres dans les brigades internationales, majoritairement, on peut dire que les Espagnols de Saint-Denis ont pris peu à peu, et en dépit de Doriot, le Parti de la République.
Ah oui, ça très vite. Bon, ça se voit notamment par l'abandon en fait du patronage, puisque les prêtres claretins qui tiennent le patronage prennent tout de suite le parti des nationalistes, des insurgés contre la République, des rebelles. Et à partir de l'été 36, on voit une diminution en flèche du nombre de mariages et de baptêmes. Ce qui montre bien que même les gens qui ne prennent pas position, qui ne vont pas envoyer leur fils se battre en Espagne, sont quand même majoritairement républicains.
On revient donc toujours à votre cas étrange quand même, Denis Fernandez, parce que beaucoup plus tard, vous étiez à l'école en quelle année ?
Moi, j'étais à l'école vers 58, une chose comme ça. J'étais à l'école assez... je suis resté à l'école assez tardivement, à Saint-Denis. Je suis arrivé à l'âge de 10 mois. Hein. Je suis né dans le sud-ouest de la France.
Alors, beaucoup plus tard, comment vos parents communistes, peut-être eux-mêmes presque communistes de naissance, vous ont-ils envoyé dans cette école ?
Mais pour la simple raison qu'ils pensaient revenir en Espagne. C'est... il faisait fi du conflit très grave qui existait entre qui existait entre leurs convictions en quelque sorte et les propositions modérées quand même pour dire ce qu'il y a, c'est pas des missionnaires modérés de ce qu'on appelle les curés quoi tout simplement. Et je voulais revenir quand même sur ce qu'a dit Natacha Lillot. Il y a une chose très importante qui s'est produite. Vous parlez de l'attachement au Parti communiste français. Mais je rappelle quand même un événement considérable. C'est que c'est le Comintern, c'est-à-dire l'international communiste, qui décide des brigades internationales. Hein, qui ne comprend pas que les communistes, mais qui décide de cela. Et le siège de recrutement était à Paris. À la plaine, il s'est passé. Moi, j'ai connu quelqu'un de très intimement, qui est Paco Asensi, qui a été capitaine des brigades internationales pour la simple raison qu'il était espagnol, effectivement, mais qu'il résidait en France. Et qui a poursuivi la guerre, la guérilla, au-delà de la défaite de février-avril 1939. Voilà. Son fils est actuellement député. Hein,
député et maire de Tremblay en France.
Voilà, exactement. Et maire de Tremblay en France.
Voilà, ça, ce sont dans les familles communistes où on est communiste de naissance, une branche particulière celles qui sont nées de l'immigration espagnole. Alors vous disiez, Denis Fernandez, mes parents, et puis beaucoup d'Espagnols étaient dans ce cas, imaginaient pouvoir, devoir rentrer en Espagne, sauf pendant la période de la guerre civile où évidemment les déplacements n'étaient pas possibles. Les allers-retours, Natacha Lillo, ont quand même souvent été fréquents.
Oui, il y avait des allers-retours fréquents parce qu'en fait, bon, beaucoup de gens retournaient en Espagne parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne s'adaptaient pas aux conditions difficiles de la banlieue, au travail, aux conditions de vie, au climat. Et puis bon, des fois, les gens rentraient aussi en cas de décès pour régler des affaires d'héritage. Donc pendant toutes les années 20 et 30, il y avait pas mal d'échanges. On était au courant de ce qui se passait au village, même quand on ne savait pas lire et écrire, ce qui était souvent le cas. Il y avait des gens qui ramenaient du village des figues, un morceau de fromage, du jambon. Bon, et la grande coupure, ça va quand même durer une bonne dizaine d'années, puisque ça va commencer avec la guerre civile en 1936 et ça va s'achever avec la réouverture de la frontière en 1948, puisque la France ferme la frontière entre 1946 et 1948.
Et alors aujourd'hui, les allers-retours sont bien sûr toujours aussi fréquents. Depuis la mort de Franco, les républicains espagnols n'hésitent pas à acheter une ruine, à la transformer ou une maison en Espagne. S'il y a peu dans l'exposition 12 banlieues dont nous parlait Frédéric Jacquet de photos d'enterrement, c'est qu'on l'imagine peut-être être enterré dans la péninsule.
Vous, ça fait très longtemps que vous êtes en France.
Moi, ça fait 37 ans.
Moi, 34 ans.
Moi, 43.
44.
40.
Ça vous manque pas l'Espagne pour,
Ah oui. Ça, de toute façon, nous, les vacances, c'est partir en Espagne.
Donc maintenant, ils veulent tous repartir. Mais ils attendent quoi, leur retraite, pour tous repartir? Parce que pourquoi? Parce que là-bas, la mentalité, et tout ce qui est... la vie quotidienne, tout ça, n'est pas comme ici. C'est autre chose. Les gens, ils sont... c'est pas pareil. Comme maintenant, l'Espagne a vachement évolué, c'est monté. Ils se rendent compte que ici, c'est pas leur tout, c'est pas leur vie, quoi. Donc, ils attendent quoi, la retraite, pour tous repartir. Enfin, pour eux, je trouve qu'ici, eux, ils s'ennuient ici. Ils n'ont pas la liberté comme là-bas.
Ça va? Ça s'est bien passé? Alors, un test, puisque les Espagnols souvent hésitent. Je ne vais pas poser à ceux qui sont là dans la salle la question de la double nationalité. Non, j'ai demandé à Manuel. Manuel, c'est celui qui préfère l'ombre, mais comme elle tombe peu à peu au parvis de la cathédrale, il s'est approché de nous. Dans peu de temps, on va présélectionner les villes qui auront l'honneur de recevoir les Jeux Olympiques de 2012. Alors, il y a la possibilité Paris. Qui dit Paris, dit Saint-Denis. Et la plaine Saint-Denis. Mais face à Paris, il y a la candidature de Madrid. Qu'est-ce que vous préférez?
Pour moi, Paris et surtout Saint-Denis, c'est beaucoup plus proche. Hein. Je me sens beaucoup plus proche de Saint-Denis et de Paris que de Madrid. Ou alors la Corogne. Hein, mais...
Mais c'est normal, il est galicien. Moi qui suis plutôt d'origine catalane, je préférais Barcelone, mais je crois que je me plais bien à Saint-Denis quand même. Il y a une chose que je voulais dire à propos de Saint-Denis. C'est une ville très singulière pour les Espagnols, car non seulement il y a une communauté espagnole, mais il y a une originalité, c'est que la rue où était situé le Real Patriota Espagnol, où siégeaient les franquistes, entre guillemets, hein, a été débaptisé et est devenu la rue Cristino García, qui a non seulement été un combattant des guerres d'Espagne, un résistant en France, qui a contribué à la libération du sud-ouest de la France, et qui est mort en Espagne dans les guérillas d'après-guerre.
Oui, mais je sais que, né communiste, vous l'êtes resté, Denis Fernandez, et que vous voulez me tirer sur le terrain politique. Vous allez me parler des plaques, de tous les déportés qui ont été raflés à la petite Espagne et qui ornaient les pavillons des maisons. Mais moi, je vous tire vers le sport, parce que Madrid et Saint-Denis, là, s'opposent pour la candidature de 2012. Tenez d'ailleurs, à propos de votre petite enfance, vous jouiez au foot dans l'équipe catholique?
Absolument pas. Non, non, pas.
C'est parce que vous n'êtes pas très sportif, j'imagine.
Si, au contraire, j'étais... écoutez, je vais dire une chose absolument affreuse de vanité. J'ai été considéré pour le moment comme un espoir du football. Hein. Je jouais au Racing Club de France.
Voilà. On dirait pas Manuel, parce que de nous tous, c'est lui qui a choisi la position assise avec un cigare, alors que nous, nous sommes à l'ombre, certes, oui. Mais vaillamment debout.
Oui, non, mais j'ai été imprimeur des longues années de ma vie, et la plus belle position pour moi, c'est la position debout, là. Je supporte pas d'être assis, là. Enfin, je supporte mal, quoi. Ou alors à table.
Alors à table, je voulais vous parler de grands banquets, parce qu'on va parler un petit peu de l'actualité espagnole telle qu'elle est vue par les hispano-dionysiens. Je voulais parler de grands banquets qu'on prépare samedi à Madrid. On va organiser, je crois que c'est la première fois depuis 1906, dans une cathédrale qui est moins belle que celle de Saint-Denis. Là, la comparaison est en faveur de Saint-Denis. La sélection, il n'y a pas de doute, c'est pour Saint-Denis. Donc, on va organiser le mariage du prince héritier et d'une présentatrice de journal télévisé. Elle présentait le 20h. Elle s'appelle Laetitia Ortiz.
Je suis pas très au courant de l'actualité, surtout celle-là, non. Je lis pas beaucoup les journaux. Non,
parce que, vous voyez, le mariage princier serait réussi, ça aiderait à la candidature de Madrid contre Saint-Denis. Mais
je pense que dans un pays démocratique comme l'Espagne, qu'on se serve ou qu'on utilise les rois pour rassembler les gens, je trouve ça un peu rétrograde, vieillot, dépassé. Non,
on était quand exactement. Même content de l'avoir, le roi, au moment du coup d'État.
C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire dans un pays adulte qui aspire à la démocratie? Est-ce qu'on a besoin de retourner à 1789, avant 1789, en Espagne ou en France aussi? D'ailleurs, en Angleterre, c'est pareil. Là. Chirac a reçu la reine d'Angleterre il y a seulement un mois. Hein. Grande pompe, on est en République. C'est, je dis pas c'est honteux, mais c'est
Vous êtes en République ici?
Oui, bien sûr. Mais Chirac aussi, là, c'est la République qui défend. Et on reçoit les rois et les princes comme comme il y a deux siècles. C'est...
Et là, vous êtes en train de désigner d'un doigt vengeur, elle est en plein soleil, non, la malheureuse cathédrale qui abrite les restes des Bourbons.
J'admire le travail humain, l'œuvre des artistes qui l'ont réalisé, des artisans, des hommes, et l'esprit qui l'a fait naître. C'est pas la religion, je suis pas anti-religieux, mais enfin...
Il y a un point commun quand même entre Madrid et Saint-Denis, donc c'est les Bourbons. Alors, le commentaire par les dames du Hogar, parce que vous le fréquentez, mais du côté domino. Les dames du Hogar ce dimanche.
Alors dites-moi, au-dessus du bar, on peut voir le roi.
Le roi, la reine, c'est là.
Le roi et la reine, il va y avoir le mariage du prince héritier bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Oui, c'est très bien, parce qu'il avait l'âge de se marier.
C'est très bien. On était très contents pour lui. Depuis le temps qu'on attendait qu'il se marie, alors là, il arrive le moment et on est très contents pour lui.
Moi, je pense que c'est très, très bien parce que c'est une fille de simple. Enfin, simple. Il a sa carrière. Si, c'est... Comment on dit, périodiste? Journaliste. Journaliste, je ne me rappelle pas. C'est une journaliste, une fille de pop. Voilà.
Très intelligente. Apparemment, c'est ce qu'il dit tout le monde. Tout l'Espagne, elle est très contente pour lui et pour elle. Et puis bon, espérons qu'il va être une bonne reine d'Espagne. C'est la seule chose qu'on demande.
C'est dommage qu'il n'ait pas venu chercher ma fille. Parce que moi, j'ai une fille célibataire. Bah oui, mais bon, on est très contents qu'il soit un espagnol.
Ta fille n'a pas l'intelligence que elle.
Allez, Denis Fernandez, hein, s'il n'y avait pas la monarchie, les tendances centrifuges de l'Espagne, vous me parliez des Galiciens qui ne sont pas d'accord avec les Catalans, ne feraient que s'accentuer. Et puis le modèle familial que proposent maintenant les Bourbons, peut-être à leur cœur défendant, c'est un modèle moderne qui plaît aux dames, voyez, du Hogar. Une roturière, ça donne des espoirs.
Éminemment moderne. Mais c'est parce qu'il y a un bon roi que ça justifie la monarchie. Hein, je vous signale ça. C'est pas parce qu'il y a un bon bourreau qu'il faut justifier la peine de mort. Voilà, pour grossir le trait.
Donc vous êtes Juan Carliste, vous, mais pas monarchiste sur la durée.
Non, je reconnais des mérites à Juan Carlos. L'un des premiers mérites, d'ailleurs, ce n'est pas son opposition au coup d'État de Tejero. Son premier mérite, c'est d'avoir démocratisé l'Espagne, d'avoir contribué immédiatement à la démocratie de l'Espagne. Sa maladresse, c'est d'avoir voulu perpétuer une monarchie. Voilà, c'est tout, c'est simple. Je rappelle quand même que son grand-père avait abdiqué. Alors, c'est une chose très, très drôle, puisqu'il a abdiqué à propos de, non pas de, d'élections régionales, mais d'élections municipales. C'est une chose que j'ai soulignée dans ce pays où il paraît que les élections régionales ne comptent pas pour grand-chose.
Oui, nous en parlions ici au lendemain du second tour. Et puis, vous reviendrez pour le lendemain des européennes, le 14 juin, en direct du Café culturel de Saint-Denis. Vous êtes convaincu, là, Manuel, par le mariage princier, par les arguments de vos amis, les dames du Hogar?
Les histoires d'amour ne concernent que les intéressés eux-mêmes. Nous, on est spectateurs. Hein. Si des rois se marient avec des princesses, c'est fantastique.
Et puis, il y a un modèle nouveau de famille, j'y insiste, qui se crée là, avec l'union d'un prince et de Cendrillon. D'ailleurs, la famille espagnole, je ne sais pas comment ils voient ça, ici, les anciens hispano-dionysiens, et tourneboulés. Avant même que Noël Mamère ne procède, il l'annonce, à un mariage homo à Bègle début juin, le nouveau Premier ministre espagnol, M. Zapatero, s'est prononcé pour le mariage homo. Commentaire depuis le Hogar à Saint-Denis hier dimanche.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du mariage homosexuel. C'est dans le programme du président Zapatero.
Je suis tout à fait contre. Je trouve que ça, c'est hors nature. Ça ne devait pas être toléré. Parce que ça, c'est la porte ouverte à tout, à tout. Et c'est très, très moche. À tout, demain, parce qu'ils vont faire, demain, ils vont se mettre à faire l'amour là, dans la pleine rue comme ça. Voilà, ça va, c'est la porte ouverte à tout ça. Moi, je trouve. Hein. Enfin, c'est mon avis à moi. Ça n'engage que moi. Hein. Voilà. Mais je trouve que ce n'est pas bien du tout. Moi, je ne suis peut-être pas très moderne. Je suis classique. Je garde mes traditions. Hein. Mais ça, vraiment, ça, c'est une chose que je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Là, je serais très malheureux si une de mes filles demain, ou mes petits-enfants, j'ai deux petits garçons, deux petits-enfants, ils viennent et me disent qu'il va se mettre avec une femme ou avec un homme. Ça, là, je serais vraiment très malheureuse. Parce que chaque chose, c'est la nature, c'est comme ça. Et un homme et une femme, c'est fait pour vivre ensemble, pas de femme.
Les mojos Joël se marient en Espagne. Alors, même femmes que hommes.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, c'est un problème, ça, je pouvais bien penser. Je ne pouvais rien dire contre ça. Hein.
qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, ça, c'est, je ne sais pas. C'est, avant, peut-être, il y en avait aussi. On entendait moi parler. Mais bon, là, c'est... je ne sais pas, c'est la vie peut-être comme ça. On accepte ça, tout le monde. On accepte ça. Hein, c'est des hommes, c'est soit elles qui vont vivre ensemble et des femmes, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est comme ça, puis il faut l'accepter comme il est. C'est vrai qu'on vous attendait aussi dire qu'ils ont le droit d'adopter des enfants. C'est vrai qu'on trouve un peu bizarre, mais bon, si sa vie, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Hein.
Voilà, Lionel Jospin ne serait pas content, qui pense que les institutions doivent perdurer, qu'elles ne sont pas conduites par les mœurs. Manuel?
Je serais en partie d'accord avec Lionel Jospin, mais finalement, par rapport à ce problème, c'est les peuples qui décident. C'est pas Jospin, c'est pas Zapatero. C'est aux gens de s'engager par rapport à ça. S'ils estiment que effectivement l'enfantement et le mariage, c'est un homme et une femme, l'enfantement, c'est les femmes qui le font et qui le souffrent. Je ne vois pas comment un couple d'homosexuels, quel qu'il soit, peut adopter des enfants là.
Pour vous, la grande distinction, c'est entre hommes et femmes, pas entre homosexuels et hétérosexuels.
J'ai pas à m'engager là-dessus, sauf en tant que personne. En tant que politique, j'ai pas à prendre des décisions sur des choses tellement extraordinaires qui concernent la société entière. Hein. En Espagne, Zapatero, après le succès aux élections, il s'est cru permis de s'engager sur un tas de choses. Là, il y a des choses en Espagne aussi plus urgentes que le mariage homosexuel. Et en France, on a repris de la même manière, puisque c'était porteur, c'était un thème porteur, on a repris les mêmes thèmes. Alors je trouve ça un peu... c'est les gens qui décident, là. C'est la société qui décide, qui évolue à son rythme, c'est pas...
Voilà, Denis Fernandez.
Sur le mariage homosexuel, Moi, je suis hostile au mariage, tout simplement. Donc, je me prononce pas sur ces choses-là. Enfin, en plus, ça regarde des gens. C'est très curieux parce que l'union de gens concerne le privé et le mariage, à ceci de particulier, c'est qu'il projette le privé dans une instance publique en la sacralisant, Donc, moi, je reste tout à fait dans les spectatives.
Vous me direz que plus le mariage se généralisera jusqu'à toucher des personnes qui auparavant n'y pensaient pas, plus d'une certaine manière il se banalisera et plus ça donnera de place en contrepoint au mariage religieux qui redeviendra une instance suprême, ce qui va vous faire plaisir.
Tout à fait. Alors là, vous avez tout à fait raison. Surtout au pied de la basilique. Où Aragon disait les rois sont prisonniers des rouges. Et tout à l'heure, vous parliez de l'Espagne républicaine. Il y a eu un événement ici en 1792. Ça a été l'exhumation des monarques, dont en fait il ne reste rien. Ce sont des catafalques plutôt que des sépultures qu'il y a ici.
Mais nous avons déjà rappelé tout ça. Puis vous reviendrez le 7 juin parce qu'il va y avoir un grand concours de famille princière ici à Saint-Denis au moment où on labellisera le cœur de Louis XVII. Mais si vous voulez bien, Denis Fernandez, il faut qu'on avance à grands pas quand même dans l'actualité espagnole qui n'est pas caractérisée seulement par le mariage princier et le mariage homo. Le ministre de l'Intérieur espagnol vient d'ouvrir un registre des imams et des mosquées. Je parlais tout à l'heure du modèle à l'Andalous. Alors est-ce que ce modèle existe à Saint-Denis, dernier reportage au Hogar.
Nous, on souffre parce qu'ils viennent à l'Espagne et va dit donc, hein. Et puis tout, quand on viole toutes les maisons, on ne veut pas laisser la maison tout seul. Alors vous savez, on a des problèmes avec ces gens qui viennent à l'Espagne.
Hein. Et vous vivez en France?
Moi, je vis ici, mais j'ai ma maison en Espagne aussi.
Bah, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde, je pense qu'eux, ils font comme nous, on a fait ici en France. Mais la seule chose que. Qu'on ne voulait pas qu'il laisse, admettons, comme en France, il les laisse beaucoup faire, admettons, celui-là de Boile. Pourquoi si, moi, je dis que si, dans son pays, je trouve qu'il soit bien, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais quand ils sont dans un autre pays étranger, je pense qu'il doit s'adapter à la société qu'il y a dans le pays où ils habitent. C'est ça que nous demandons pour les émigrations qui viennent rentrer en Espagne, qu'ils s'adaptent. Je ne dis pas de ne pas les laisser rentrer, non, parce que nous sommes laissés rentrer en France, pareil. Mais nous, on s'adapte, on habite dans le pays où on est. C'est pour ça que, admettons, je ne suis pas en contre, mais demander des mosquées, demander de tout ce qu'ils demandent dans un autre pays, moi, je trouve ça aberrant. Je trouve ça pas normal qu'ils fassent ça, les gouvernements dans le pays où ils sont.
Moi, je suis pas, je suis, comme la dame a dit, tout le monde, il faut s'habituer au pays qu'on est. Mais on ne peut pas venir à un autre pays à faire la loi comme elle l'a fait. Parce que ça qui s'arrive en Espagne, c'est la faute d'eux. C'est elles qui ont fait l'attentat. Et c'est à cause d'eux que sont morts tous les gens. Moi, ces gens, je veux bien que le foutent dehors de l'Espagne. Parce qu'ils sont tourés beaucoup de monde. Et là, ce n'est pas normal. Qui va à ce pays, le fait, mais pas le pays de nous.
En fait, Manuel, le feuilletage s'est produit plus paisiblement que ne semble le dire cette dame qui évoque d'ailleurs la situation espagnole plutôt que la situation dionysienne. Il reste encore dans la petite Espagne de ces vieilles maisons d'autoconstruction qui sont maintenant occupées par de nouveaux immigrés plus récents qui fossilisent les Espagnols.
Effectivement, il en reste. Il y a un tas de gens qui ont vécu dans ces maisons depuis 50 ans pratiquement là, qui sont aujourd'hui expulsés parce que c'est un quartier en rénovation. Ce Hogar espagnol qui est un symbole, la petite Espagne c'est quand même un symbole extraordinaire dans une ville où il y a eu plein d'Espagnols qui ont souffert, qui ont bataillé, qui ont vécu dans des bidonvilles pratiquement là. Qui aujourd'hui sont expulsés. Cet endroit qui est un lieu symbolique a été laissé à l'abandon pendant des années encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le visiter. L'année dernière, il était en vente pour 1 euro symbolique parce que personne ne voulait s'engager de la part de l'État espagnol.
Alors, Denis Fernandez, justement, ces maisons à demi abandonnées, vous avez consacré tout un livre à la transformation autour du Stade de France de ce quartier. On y trouve des immigrés récents qui se retrouvent un peu dans la même situation que les Espagnols des années 20.
Il y a quelque chose de... J'allais dire, il y a une invariante. c'est que couche d'immigration après couche d'immigration, on retrouve la même situation, les mêmes conditions, la même situation sociale, les mêmes conditions de vie. Quand j'étais enfant, il y a une chose qui m'avait énormément heurté, c'est que nous avait confisqué les caves, nos caves, du 3 Passage Boise, pour les attribuer aux Algériens, qui eux, déjà à l'époque, avaient une situation bien plus difficile que la nôtre, puisqu'ils connaissaient le couvre-feu. Voilà.
C'était la conclusion provisoire de l'histoire jamais achevée de la petite Espagne. Nous étions en direct de Saint-Denis, du Café Culturel, avec Franck et Manuel, pour finir.
No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa rara de la vida, sin el fuego de tu boca yo te vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si
le prochain rendez-vous à Saint-Denis lundi prochain autour du thème de la santé, le débat sur la santé on l'abordera mercredi à El Sur. Le thème sera l'UNEDIC et la CNAM, l'histoire du paritarisme avec notamment André Bergeron. Et puis demain, à Paris, El Sur, là encore, Jean-Paul Kaufmann qui publie 31 Allées d'amour. On finit avec ce chant d'amour, donc en direct du Café culturel de Saint-Denis, Guillaume Baldi et Yves Lehors à la technique.
No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 mai 2004.